Ben bonsoir à ceux que j'ai pas salués. Voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir et de partager donc autour de la parole. Je vais juste prier avant qu'on puisse regarder ensemble ce que je vais apporter. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, qu'on veut mettre à part pour toi. Et je te prie vraiment de bénir notre écoute, de bénir aussi, Seigneur, notre cœur, afin qu'il soit réceptif à ta parole. Et je te prie, Saint-Esprit, vraiment d'œuvrer en ce moment et vraiment dans nos cœurs pour que nous puissions grandir en maturité avec toi par rapport à tout ce que ta parole nous enseigne, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous savez, ce mois-ci, on est sur le thème de la famille. Exactement. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand on parle de famille, tout ce qui est valeur familiale, on a tendance un petit peu à les perdre. On a tendance à les perdre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on les perd pour quelque chose de plus individuel, c'est-à-dire centré sur nous-mêmes, par nos propres intérêts, parce que ben on s'occupe plus de sa petite personne que de la famille. Et finalement, ça arrive que on voit sa famille qu'une fois par mois, une fois par an, par exemple, seulement à de grandes occasions. Anniversaire, Noël, fête, etc. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, hein, bien sûr. Je suis quand même conscient de ça. Le travail, les études. Je pense notamment à tous les étudiants ici qui ont quitté leur pays pour venir étudier ici. Je pense aussi donc à la distance, mais à tout autre facteur qui peut justement occasionner cela. Mais j'aimerais vous rappeler qu'aux yeux de Dieu, la famille a de la valeur. Dieu aime les familles et il les bénit. Et vous savez, lorsqu'on parcourt la Bible, eh bien, on s'aperçoit que la notion de famille imprègne les Écritures. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit que la famille, c'est un sujet qui est dans le cœur de Dieu. Et la Bible nous parle justement de plusieurs représentations par rapport à la famille. On parle, quand on parle de famille dans la Bible, on peut évoquer la maison. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle souvent de la maison de Jacob, la maison de Joseph, etc. Et vous savez que dans une maison, ben c'est là que naît en général une famille, c'est là qu'évolue une famille, que grandit une famille. Autre mot aussi qu'on peut trouver par rapport à la famille, où on peut assimiler la famille, c'est la tribu. Tribu de Manassé, d'Aser, les 12 tribus d'Israël, par exemple. Et là, ça fait plus notion, c'est plus une notion de peuple. Voilà. Ensuite, il y a aussi la patrie. Dieu dit à Abraham, vous savez, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Donc là aussi, c'est une notion de famille, là où il a vécu, un pays où il a grandi. Et enfin, un autre terme aussi qu'on peut assimiler à la famille, c'est la tente. Vous savez que les tentes, c'était les lieux où, voilà, les familles vivaient à l'époque. Tout cela, si je vous parle de ça, c'est tout simplement pour vous dire que Dieu considère la famille. Pas seulement la famille de sang, mais la famille avec une vision beaucoup plus large. Une vision telle un peuple, une famille comme un peuple, un clan, un pays ou encore une nation. Et Dieu veut être notre Dieu à nous, d'une relation personnelle, mais Dieu est aussi le Dieu de notre couple, le Dieu de notre famille et le Dieu de notre peuple, de notre maison, de notre nation. Et à votre avis, est-ce que une famille parfaite, ça existe ? Non, on est d'accord. Une famille parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et on voit que le péché est venu, vous savez, s'imprégner dans notre chair. Donc, résultat des courses, le péché affecte non seulement notre relation avec Dieu, donc la relation entre l'homme et Dieu, mais le péché aussi, eh bien, vient, affecter aussi nos relations dans la famille familiale, c'est-à-dire dans le couple et avec les enfants. Depuis la chute, on assiste à des conséquences quand même qui sont graves au sein des familles. Et la Bible ne se cache pas de nous les révéler. Et juste pour vous citer quelques exemples. En fait, je vais vous citer quelques exemples par rapport à ce que le péché provoque vraiment dans les familles, pour qu'on en ait conscience de ce que ça peut engendrer. Alors, c'est pas un jeu, parce que là, j'aurais pu dire dans la famille d'Adam et Ève, j'appelle le fils, vous connaissez ce jeu de cette famille ? Dans la famille d'Adam et Ève, j'appelle le fils Caïn, qui tua son frère Abel. Dans la famille de Noé, j'appelle le fils Cham, spectateur du problème d'alcool de son père. Il le voit nu, et que fait Noé ? Il le maudit. Dans la famille d'Abraham et Sarah, j'appelle Ismaël, qui n'est pas le fils de la promesse, mais j'appelle aussi Sarah, qui est passée pour la sœur d'Abraham à deux reprises. J'appelle dans la famille de Lot les filles de Lot, qui ont failli finir abusées par les habitants de la ville. Dans la famille d'Isaac, le plat de lentilles qui a coûté le droit d'aînesse d'Ésaü au profit de son frère Jacob. On peut noter aussi un problème de préférence. Vous savez que Rachel va préférer Jacob et Isaac, son frère Ésaü. Et tiens, en parlant de préférence, eh bien, on en a à dire aussi par rapport dans les familles, hein, parce que ça, malheureusement, ça existe. Dans la famille de Jacob, j'appelle le fils Joseph, le chouchou de son papa, qui s'est vu offert le dernier manteau à la mode. Et d'ailleurs, ses frères n'ont pas très bien apprécié donc non seulement son attitude, mais aussi cette préférence, parce qu'ils ont tenté de le tuer. Dans la famille de Gédéon, j'appelle son fils Jéther, qui fut amené sur le champ de bataille alors qu'il n'était qu'un enfant. J'appelle aussi son fils Abimélec, qui tua ses 70 frères. J'appelle dans la famille de Jephté sa fille, qui, à cause d'un vœu que son père a fait, a failli perdre la vie. Dans la famille d'Élie, j'appelle le père qui a laissé ses fils faire toutes sortes de mauvaises choses sans les reprendre. Dans la famille de Samuel, j'appelle ses deux fils Joël et Abijah qui ne suivirent pas du tout l'exemple de leur père. Ils se livraient à des profits malhonnêtes et violentaient la vérité. Dans la famille de Saül, je pense à Jonathan qui a failli mourir à cause d'un vœu insensé de son père dans la bataille. Et enfin, dans la famille de David, j'appelle son fils Amnon qui viola sa sœur Tamar, qui mourut ensuite tué par son frère Absalom, et Absalom tenta aussi de tuer son père David. En fait, beaucoup de choses ici peuvent nous frapper lorsque nous regardons à ces familles. Et on peut au moins retenir deux choses. Premièrement, c'est que la famille parfaite n'existe pas. Même dans la famille de Dieu, il peut exister des tensions, des malentendus. Et vous savez, la famille de Dieu, c'est un concentré de personnes imparfaites. On vient avec notre bagage de vie. Et pourtant, nous avons tous le même Père. Mais on doit faire avec parce que la Bible nous invite à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Et lorsque, eh bien, on devient un enfant de Dieu, il y a d'abord une transformation qui se fait au fond de nous, dans notre cœur. Et après, ça a des répercussions extérieures. Et je dirais que tout comme dans une famille de sang, eh bien, il existe des différences. Et l'Église n'en échappe pas. Et ce, même si Dieu est notre Père à tous. Deuxième chose qu'on peut retenir, malgré les exemples que je vous ai donnés tout de même, c'est que Dieu bénit et reste fidèle. Malgré les échecs de chacun, en tant que père, mère, fils, fille, frère, sœur, Dieu s'est quand même servi d'eux pour accomplir ses œuvres. Et ça, ça doit nous encourager, non pas à rester dans notre péché, mais nous encourager à savoir que Dieu veut se servir de chacun de nous, malgré ce que nous sommes. Malgré, eh bien, les imperfections que nous avons, que nous pouvons avoir. Alors vraiment, intégrons cette notion dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie de famille. Nous ne sommes pas parfaits, on fait tous des erreurs, en tant que parents, en tant qu'enfants, mais Dieu, lui, reste fidèle et bon à notre égard. Et ça, c'est bon de le savoir. Demandons-lui pardon, mais n'ayons pas honte aussi de demander pardon à nos parents, à nos enfants, pour nos erreurs. Il n'y a pas de honte à demander pardon à ses enfants quand cela est nécessaire. Et d'ailleurs, comment nos enfants, d'ailleurs, apprendront-ils à pardonner si nous-mêmes nous le pratiquons pas? Cherchons constamment à faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Et peut-être que le vecteur pour nous, par rapport à nos familles, ça serait ce passage de ce que Jésus dira. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu doit être le vecteur sur lequel nous devons asseoir notre pratique, notre vie chrétienne. En aimant Dieu, nous pourrons aimer notre plus proche prochain, c'est-à-dire toutes les personnes qui font partie de notre cercle familial. Alors, comme je l'avais fait, si vous vous en souvenez, le mois dernier, j'avais pris quelques exemples de couples, parce qu'on était sur le couple le mois dernier. Et je ne vais pas déroger à cette règle, j'ai choisi de prendre donc quelques exemples de situations familiales et auxquelles on pourrait eh bien, retenir quelques leçons. La première que j'ai choisie, c'est celle d'Ézéchias. Le roi Ézéchias, alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous voyez de qui il s'agit. C'était un des rois, c'était le fils du roi Akaz. Et le roi Akaz, il faisait partie d'un des plus mauvais rois du royaume de Juda. Le roi Akaz suivait, eh bien, il suivait la lignée, le mauvais chemin en tout cas, de tous ses prédécesseurs, de tous ses mauvais rois. Il adorait des dieux païens, les Baals. Il faisait même passer certains de ses enfants, donc les frères d'Ézéchias, hein, en sacrifice. On lit ça dans 2 Chroniques, chapitre 28, au verset 1 à 3. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnon et fit passer par le feu, ses fils par le feu en sacrifice, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Vous en pensez quoi du contexte, dans quel contexte Ézéchias il va grandir là? Particulier quand même, hein, de grandir dans un contexte pareil. Mais la Bible nous montre que Dieu va toucher la vie de ce jeune homme. Il va devenir roi à l'âge de 20 ans, et dans le premier mois de son règne, il va entamer des changements dans le pays. Et on lit ça dans 2 Rois chapitre 18 au verset 1 à 6, la troisième année du règne d'Osée, fils d'Éla sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néustan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. Quel miracle ! Je ne sais pas vous, mais là on voit que Dieu change le mal en bien. Rien ne prédestinait à Ézéchias, en tout cas, d'être ce qu'on vient de lire. Je sais pas vous, mais lorsqu'on grandit dans un contexte qui est aussi mauvais, il est tout à fait normal qu'en tant qu'enfant, on reproduise ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Et là, on voit que vraiment, eh bien, Ézéchias était différent. Il a grandi auprès d'un père extrêmement violent, cruel, s'éloignant complètement des choses de Dieu. Mais il n'a pas reproduit ce que son père a fait. Il a fait tout le contraire. Et l'histoire aurait pu se terminer là. Mais pas encore, parce qu'Ézéchias, en fait, va tomber à un moment donné très malade, gravement malade. Et c'est le prophète Ésaïe qui va venir le voir pour lui annoncer qu'il allait bientôt mourir. Ézéchias va prier Dieu, qui lui accordera encore 15 années à vivre. Et pendant ces 15 années, eh bien, on sait qu'Ézéchias va y consacrer toute son énergie pour accumuler des richesses. C'est ce qui nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 32, au verset 27 à 29. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, de tous les objets qu'on peut désirer, des entrepôts pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile, des étables pour toutes les sortes de bétail et des troupeaux pour les étables. Il se construisit des villes et il eut de nombreux troupeaux de petits et gros bétail. Donc il a charbonné pendant 15 ans, Ézéchias. Il n'a pas perdu 100 ans. Il en a profiter pour eh bien, s'enrichir, pour acquérir des biens. Et un jour, il va recevoir une lettre du roi de Babylone avec un cadeau. Lorsqu'il était malade, il a été donc guéri, Dieu lui accorda 15 années. Il va recevoir donc une lettre de ce roi de Babylone. Et en fait, il va décider de recevoir donc, voilà, ce, les invités de Babylone. Et il va être là, tout fier, pour leur montrer toutes ses richesses. Donc il en profite vraiment pour montrer à ses invités tout ce qu'il a pu acquérir. Et en s'enrichissant, en fait, ce qu'on peut noter, c'est qu'Ézéchias avait aussi eh bien, nourri un certain orgueil. Il était tombé peut-être dans l'orgueil. Pendant ces 15 années, il va accumuler des richesses. Il va travailler fort pour eh bien, acquérir tout cela. Mais d'un autre côté, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer sur un point de vue familial. C'est vrai que la Bible ne nous cite pas. Mais on sait que c'est dans la troisième année de ces 15 années que Dieu lui accorda que son fils Manassé va naître. On ne sait pas ce qui s'est passé, la Bible n'en parle pas, mais ce que l'on peut déduire, c'est qu'il y a eu peut-être une forme de déséquilibre. Mais c'était au détriment eh bien, du temps à l'éducation de son fils. Parce que quand on voit comment son fils va devenir, on peut se demander si Ézéchias n'a pas manqué quelque chose. La Bible nous dit que son fils Manassé fut le plus mauvais et le plus dur de tous les rois du royaume de Juda. Dans 2 Rois chapitre 21 et versets 2 à 6, je ne vous l'ai pas mis, mais je vais vous le lire. On parle donc de Manassé, le fils d'Ézéchias. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels en l'honneur de Baal. Il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi d'Israël d'Akab. Merci papy. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom ». Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il pratiqua la divination et l'occultisme et il mit place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. » Manassé, le fils d'Ézéchias, détruit tout ce que son père avait mis en place. Il souilla le temple, il fit passer même ses propres fils en sacrifice, il répandit le sang innocent d'un bout de Jérusalem à l'autre. Et en fait, ça rappelle vaguement ce que son grand-père faisait, Akaz. Et à cause des péchés de Manassé, tout le peuple sera emmené en captivité à Babylone pour 70 ans. Ézéchias fut utilisé par Dieu pour de grandes choses dans sa nation pendant sa vie, mais le fait d'avoir peut-être négligé sa famille affecta sa nation bien après sa mort. Proverbe chapitre 22 au verset 6 nous est dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Deutéronome, et j'aime vraiment ce passage dans Deutéronome chapitre 6 versets 5 à 9, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Ça doit nous encourager à mettre vraiment l'accent sur l'éducation de nos enfants au sujet de la parole de Dieu. Et il ne s'agit pas simplement d'en parler, mais là, le passage nous montre que c'est quelque chose qui doit être fait au quotidien, à la maison, tous les jours. Pas seulement quand on vient à l'église, mais vraiment tous les jours, à chaque moment, être vraiment cette porteur de bonnes nouvelles auprès de nos enfants. Et j'aimerais dire, tout comme Dieu sait nous reprendre et nous corriger, nous avons aussi ce devoir de le faire avec nos enfants. En les enseignant sur ce qui est bon, sur ce qui ne l'est pas, de les préparer aussi à affronter les réalités de ce monde. De les guider, comme je le disais un dimanche, sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Une autre famille que j'aimerais évoquer, c'est celle d'Obed-Edom. Je ne sais pas si ça vous parle, Obed-Edom. Pour vous resituer le contexte, David est roi, il est roi de tout Israël, et à un moment donné, il a voulu ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Et en fait, il va utiliser un char pour transporter cette arche plutôt que de se servir des Lévites selon les prescriptions de la loi. Et vous savez, en chemin, l'arche va glisser, va faillir tomber. Il y a un certain Uzza qui va être là, qui se tenait à côté. Il va se précipiter pour la retenir et le Seigneur l'a foudroyé sur place. David et tout le peuple, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils ont eu très peur. Et David était très embêté pour amener l'arche de l'Alliance chez lui. Donc, il va décider de l'emmener chez un certain Obed-Edom, dans 2 Samuel chapitre 6, versets 10 et 11. Il ne voulut pas prendre l'arche, donc c'est David, de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. Ce que l'on peut retenir ici, c'est que l'arche de l'Alliance, eh bien, représentait la présence et la gloire de Dieu. Alors imaginez-vous avec cette arche au milieu de votre pièce de vie ou de votre salon, la présence de Dieu qui est là. Pendant 3 mois, Obed-Edom et toute sa famille vont être au contact de la présence de Dieu. La présence et la gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, est une source de bénédiction. Obed-Edom va être marqué par cette proximité avec la présence de Dieu. Par la suite, on sait qu'il va se retrouver parmi les portiers de la maison de Dieu, dans 1 Chronique chapitre 15, verset 18. Il va être chantre aussi, 1 Chronique chapitre 15, verset 21, et il va se retrouver aussi portier de l'arche, au verset 24. En fait, il avait appris à chérir la présence de Dieu, à accueillir la présence de Dieu dans sa famille, à rechercher cette proximité, eh bien, je dirais, avec cette arche. Et comprenez bien que c'est une comparaison avec ce qu'on peut rechercher dans notre relation avec Dieu à partir du moment où on met Dieu au centre de notre famille. Dieu le bénit, mais il bénit aussi sa famille et ses enfants. 1 Chronique, chapitre 26, c'est au verset 8, et je vous lis juste le début, mais ce qu'il faut retenir, c'est celui que j'ai affiché, le verset 8. Il nous est dit, quant à Obed-Edom, il eut pour fils donc Shemadjé l'aîné, Josabad le deuxième, Joash le troisième, Zachar le quatrième, il a eu 8 fils. En effet, Dieu l'avait béni, son fils Shemadjé eut des fils qui occupèrent des positions dominantes dans leur famille, car ils étaient de vaillants guerriers. Voici les fils de Jéma, Otni, Raphaël, Obed, Elzabad, et ses frères Elihu et Semadja, qui étaient des hommes vaillants. Et là, c'est ça qu'il faut retenir. Tous ceux-là étaient des descendants d'Obed-Edom. Eux, leurs fils et leurs pères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient pour Obed-Edom. Une famille zélée pour le service de Dieu, et ce, sur plusieurs générations. Aujourd'hui, nous pouvons vivre plus qu'une arche dans notre maison. On peut vivre le Saint-Esprit en nous. La présence de Dieu permanente dans nos familles, et ça, on peut le vivre. Il nous suffit juste de nous connecter avec Dieu, de mettre Dieu au centre de nos familles, et là, le Seigneur bénit. Non seulement il bénit notre maison, il nous bénit en tant que parents, en tant qu'enfants, mais il bénit aussi les générations. Et moi, je le crois fermement, que lorsque on met l'accent sur les choses de Dieu dans notre famille, Dieu bénira notre famille. La Bible nous dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous serait donné en plus. Si on veut que Dieu bénisse nos enfants, qu'il y ait un impact qui soit fait dans nos familles, alors mettons Dieu au centre de nos familles. Enfin, je termine avec cette situation-là qu'on trouve dans le livre de Néhémie. Néhémie, vous savez, va arriver à Jérusalem avec ce désir de reconstruire et réparer la muraille. Le temple et l'autel, vous savez, avaient déjà été redressés, mais en fait, les murailles, bon, il fallait y faire quelque chose. Et les portes de la ville aussi, elles étaient en ruine. Et en fait, quand on lit la Bible, dans la nuit, il va venir inspecter, il va regarder les moindres détails de la muraille et des portes. Et à votre avis, comment est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a vraiment ça à cœur, Néhémie, de reconstruire les murailles. Donc là, il est en train de faire le tour. Et là, il essaye d'imaginer un plan d'action. Est-ce qu'à votre avis, il va prendre une entreprise, je ne sais pas, pour venir réparer la muraille? Non. Alors, je ne l'ai pas mis, mais si vous avez vos Bibles, ouvrez-le à Néhémie chapitre 3, parce que c'est très intéressant comment il va s'y prendre. En fait, il va solliciter tout le peuple, mais il va solliciter des familles. À chaque famille, il va donner une portion. Et en fait, quand vous lisez le chapitre 3, vous lisez, ça sera écrit, il va prendre le fils d'un tel et le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel. En fait, il sollicite des familles pour la reconstruction donc des murailles. Il va pas se risquer à faire le travail tout seul, mais il sollicite des familles en leur donnant des portions de travail à chaque fois. Et est-ce que ça vous parle, ce dicton « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Alors, c'est sûr que là, il n'irait pas assez vite, hein, tout seul, mais en tout cas, lorsqu'on est ensemble, on est unis, on va beaucoup plus loin. Et le lien qu'on pourrait faire à notre niveau, c'est que l'œuvre de Dieu ne se fait pas seulement grâce aux responsables, pasteurs, évangélistes, etc., ou autres ministères, mais c'est que nous avons tous notre part dans l'œuvre de Dieu. Et nous sommes chacun ici un représentant d'une famille. Autrement dit, nous avons tous une part dans l'œuvre de Dieu. Chaque famille, lorsqu'elle est unie, peut participer à l'œuvre de Dieu. Dans Romains chapitre 12 et au verset 4 et 5, Paul dira en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous sommes plusieurs membres qui formons un seul corps. Le corps de Christ. Chacun de nous sommes le représentant d'une famille et nous pouvons tous contribuer à l'œuvre de Dieu, chacun pour notre part. En conclusion, Dieu bénit les familles, Dieu se sert des familles, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, au sein d'une famille. La Bible nous montre aussi que Dieu est un père qui prend soin de ses enfants. Et nous qui avons tous reçu Jésus dans notre cœur, eh bien, nous entrons dans le cercle de la famille de Dieu, alors que nous ne méritions pas. Tout n'est que grâce. Et j'aime ce psaume, le psaume 68, et au verset 6 et 7, il nous est dit, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Amen. Alors, on peut tous faire des erreurs, peut-être comme Ézéchias. Mais l'important est de revenir au pied du Seigneur et de demander pardon. On peut aussi tous choisir d'accueillir la présence de Dieu dans nos familles pour que Dieu puisse nous bénir et bénir nos enfants et les générations suivantes. Et on peut aussi, on peut aussi être unis tous ensemble comme une vraie famille pour l'œuvre de Dieu. Alors vraiment que on puisse être encouragé au travers de ces exemples, simplement pour comprendre que Dieu bénit les familles et ce malgré nos erreurs. Malgré peut-être les erreurs passées. Vous savez, c'est difficile des fois de vivre avec ça, parce qu'on n'arrive pas à avancer dans le présent. Il y a des casseroles, comme on dit, il y a des fois le poids du péché, le poids de la culpabilité qui revient sans cesse, mais j'aimerais vous dire, c'est pas grave. Dieu veut réparer justement ce qui a été brisé. Dieu est celui qui répare les relations qui sont brisées. Il restaure les familles. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et en mettant Dieu au centre de nos familles, alors oui, là, on pourra vivre une bénédiction particulière. Et on pourra marcher tous ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen.